VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 du Monde aujourd'hui. On est lundi 9 avril 2018. Au sommaire, en Centrafrique, la mission de l'ONU sur place visée par une attaque à Bangui.
Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les miliciens et criminels répondent de leurs actes.
Le président nigérien Muhammadu Buhari annonce qu'il va briguer un second mandat en 2019. Démission du président du Parlement somalien sur fond de tension avec l'exécutif. Le président Donald Trump promet des décisions importantes sur la Syrie dans les 48 heures suite à l'attaque chimique dans ce pays. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. En République centrafricaine, une base des casques bleus de la MINUSCA a été visée par une attaque la nuit dernière à Bangui, une attaque repoussée après plusieurs minutes d'échange de tirs. On ne connaît pas encore l'identité des assaillants ou leur motivation. Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique sur place à Bangui.
C'est un quartier général abritant les contingents égyptiens et jordaniens qui a été visé par cette attaque. La base se trouve non loin du domicile du chef de l'État, a été pris d'assaut aux environs de 23 heures, heure de Bangui. Après plus de trois quarts d'heure d'échange de tirs à l'arme lourde et légère, les assaillants, dont l'identité n'est pas encore connue, ont été repoussés par les casques bleus. L'attaque n'a fait ni de blessés, ni de morts dans les rangs des soldats onusiens, a indiqué Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA, mettant en garde contre toute attaque visant les forces de l'ONU. Le gouvernement de son côté n'entend pas faire machine arrière. Le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi s'est adressé en début de soirée à la population.
Face à cette accumulation des faits mettant en péril la sécurité publique, le gouvernement de la République voudrait rassurer la population que tout est mis en œuvre pour assurer sa sécurité de jour comme de nuit dans tous les arrondissements de la capitale et sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les miliciens et criminels répondent de leurs actes. Force reste à la loi.
Rappelons que dans la matinée de ce lundi, une partie des habitants du PK5 a manifesté pour dénoncer l'opération de désarmement menée par la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure dimanche dans ce grand quartier musulman de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En RDC, le mouvement citoyen congolais Debout a apporté ce lundi son soutien à la conférence des donateurs prévue le 13 avril à Genève pour faire face aux crises humanitaires en République démocratique du Congo. Je tiens à vous transmettre notre soutien sans réserve à la conférence de Genève, a écrit le président du mouvement, Sindika Dokolo, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU. Depuis quelques mois, l'ONU, ses agences et les ONG multiplient les communiqués alarmiste au sujet de la situation humanitaire en RDC. Mais le 23 mars, Kinshasa avait annoncé son refus de participer à cette conférence, estimant que l'ONU et les ONG exagéraient l'ampleur de la crise humanitaire en RDC. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a officiellement annoncé aujourd'hui son intention de briguer un second mandat lors des élections générales prévues en février 2019, mettant un terme à des mois de spéculation. John Lyndon.
Âgé de 75 ans, Muhammadu Buhari a fait cette annonce lors d'une réunion du comité exécutif national du parti au pouvoir, après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois. De nombreuses spéculations couraient au Nigeria sur sa volonté de briguer ou non un second mandat à cause de son état de santé. L'an dernier, Muhammadu Buhari a passé de longs mois à Londres pour des soins. Malgré tout, de nombreux gouverneurs d'État, la plupart membres de l'APC, le parti au pouvoir, lui ont publiquement apporté soutien. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et ensemble nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria, a déclaré Muhammadu Buhari dans un communiqué de la présidence. Monsieur Buhari, un peu l'originaire du nord musulman, a effectué fin mars sa première visite officielle à Lagos, poumon économique du pays. Une visite aux accents de pré-campagne électorale. L'APC devrait officiellement désigner son candidat aux primaires du parti dans la seconde partie de l'année 2018.
Un tribunal de Conakry a condamné à 18 mois de prison ferme un responsable du principal parti d'opposition guinéen, Ibrahima Sory Camara, pour outrage, injure et diffamation à l'encontre du président Alpha Condé. Il avait été arrêté le 22 mars sur ordre du parquet pour des propos sur les réseaux sociaux lors d'une période de forte tension entre le pouvoir et l'opposition qui conteste les résultats des élections locales du 4 février. Un tribunal correctionnel de Dakar a condamné 15 ans de travaux forcés pour terrorisme en franco-sénégalais de 34 ans revenu de Syrie. Ibrahim Aldi, en détention depuis presque 3 ans, est déclaré coupable du délit d'association de malfaiteurs et d'apologie du terrorisme. Le tribunal a aussi acquitté un autre Sénégalais poursuivi pour complicité d'actes terroristes. Après avoir rendu cette décision, la même chambre du tribunal a repris ce lundi le procès d'une trentaine de djihadistes présumés, dont un imam et plusieurs femmes renvoyées à 3 reprises depuis son ouverture le 27 décembre. En Somalie, le président du Parlement a démissionné après des semaines de brouilles avec l'exécutif qui tentait de le faire destituer. Idriss Fall.
Mohamed Cheikh Ousmane Diawari est au perchoir du Parlement depuis 2012 et a été réélu en 2017. Il a démissionné avant le début d'une séance pour examiner une procédure de destitution. Cela a mis fin à un long conflit, selon le député Dahir Amin Diesso, qui fait partie des 100 parlementaires qui ont signé à la mi-mars une motion de censure à son encontre. Ces tensions avaient débouché sur un renforcement de la sécurité à Mogadiscio et la fermeture de routes pendant plusieurs jours. M. Diawari avait accusé le gouvernement de tenter d'intimider les parlementaires avec des renforts de policiers jusqu'autour du Parlement. L'exécutif a toujours démenti. Les causes de ce différend ne sont pas claires. La motion de censure a été signée par la moitié des 275 députés avant d'être abandonnée. M. Diawari a plusieurs fois affirmé que le gouvernement lui avait demandé de démissionner, ce qu'il avait refusé, exigeant que la procédure de destitution aille jusqu'au bout.
Les autorités marocaines ont organisé une grande manifestation destinée, selon elles, à montrer au monde entier que le pays est uni et prêt à tout faire face aux provocations du front au Polisario pour défendre l'intégrité territoriale du royaume. L'événement a eu lieu à Laayoune, l'ancienne capitale du Sahara occidental, contrôlée à 80% par le Maroc et à 20% par le front au Polisario.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, une attaque chimique présumée sur la ville rebelle de Douma, imputée au régime, a provoqué de nouveaux appels à une action internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce soir. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le spectre d'une riposte militaire a été ravivé après des tirs de missiles aujourd'hui contre une base militaire dans le centre de la Syrie. Damas et son allié russe ont accusé Israël. Hier, Paris et Washington ont menacé le régime de Damas d'une réponse forte après avoir confirmé l'utilisation d'armes chimiques samedi à Douma. Elles ont toutefois démenti être à l'origine des frappes contre la base syrienne. La première chose que nous avons à examiner, c'est pourquoi des armes chimiques sont encore utilisées alors que la Russie s'était portée garante de la suppression de toutes les armes chimiques, a déclaré Jim Mattis, ministre américain de la Défense. Moscou a prévenu qu'il faut élucider ce qui s'est passé à Douma. D'après Washington, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit soutenir une enquête indépendante et exiger que les auteurs de cette attaque chimique rendent des comptes. Selon les casques blancs et l'ONG Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont péri dans l'attaque au gaz toxique à Douma, dernière poche rebelle que Damas cherche à reprendre pour parachever sa reconquête entière de la Ghouta orientale.
Et par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré aujourd'hui que son administration fera une importante annonce concernant la Syrie dans les 48 heures. Mise en garde du président iranien à l'égard des États-Unis, Hassan Rouhani a prévenu Washington que Washington va regretter son acte s'il se retire de l'accord sur le nucléaire iranien, comme le président Donald Trump menace de le faire. Nous ne serons pas les premiers à violer l'accord, mais les États-Unis doivent impérativement savoir qu'ils le regretteront s'ils le violent, a déclaré Rouhani. Une ONG palestinienne appelle à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort d'un Palestinien tué en Cisjordanie par un garde israélien. Selon la version israélienne, Mohamed Anbar, 46 ans, est décédé hier dans un hôpital israélien 6 jours après avoir été grièvement blessé par des tirs d'un garde israélien qui a ouvert le feu pour l'empêcher d'agresser avec un couteau des soldats israéliens. Plusieurs ONG interpellent le président Emmanuel Macron au sujet des ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, craignant qu'elles ne soient utilisées au Yémen. Dans une étude rendue publique ce lundi, l'Observatoire des armements et la Fédération internationale des droits de l'homme évoquent une quinzaine d'indices. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manerekiza.
Le Niger va lancer fin 2018 les travaux de construction d'un oléoduc pour 1 à 2 milliards de dollars. C'est pour évacuer l'eau brute nigérienne au Tchad voisin, puis de l'acheminer jusqu'au port camerounais de Kribi. Initialement prévu en 2013, cet oléoduc est long de plusieurs centaines de kilomètres. Le Niger produit actuellement 20 000 barils par jour et jusqu'ici acheminé par des pipelines jusqu'à Zinder dans le centre-sud du pays pour être raffiné. Un second puits pétrolier est également envisagé au plus tard fin 2018. Son exploitation permettra de produire 90 000 barils supplémentaires par jour. En Côte d'Ivoire, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a affirmé que 36 entreprises ont été sanctionnées pour corruption en 3 ans. Ces entreprises sont exclues de toute passation de marché pendant au moins 2 ans. La commande publique représente un marché de 1 000 milliards de francs CFA et concerne notamment la construction d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles, etc. La Chine juge impossible dans les conditions actuelles des négociations commerciales avec les États-Unis. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a signalé que les responsables américains et chinois n'ont engagé jusqu'à présent aucune négociation sur les différends commerciaux.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Inquiétude pour Mohamed Salah avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions.
Et oui, l'attaquant vedette de Liverpool touché aux adducteurs est toujours incertain pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City. Ce sera demain. Annonce ce lundi en conférence de son entraîneur Jürgen Klopp. Mohamed Salah, actuel meilleur buteur de la Première Ligue avec 29 réalisations, était sorti à la 52e minute du match aller en raison d'une douleur à l'aine. L'Égyptien qui n'a pas pris part au derby contre Everton, c'était samedi en championnat, match nul 0-0.
Barcelone sans pression à Rome.
Quasiment qualifié après sa victoire 4-1 au match aller, Barcelone sera demain au Stade Olympique pour valider face à l'AS Rome son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une étape de plus sur la route d'un triplé qui se précise.
Fernando Torres va quitter l'Atlético Madrid.
Et oui, l'attaquant international espagnol, idole des supporters de l'Atlético Madrid, a annoncé qu'il allait quitter le club colchonero cet été à 34 ans en raison, selon lui, d'un temps de jeu insuffisant. Surnommé El Niño, l'avant-centre formé à l'Atlético a débuté sous le maillot rojiblanco à 17 ans en 2001 avant de devenir capitaine. Il a ensuite été transféré à Liverpool, puis à Chelsea et le Milan AC avant de revenir en héros à l'Atlético. C'était en janvier 2015.
Razzia de médailles pour l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth.
Oui, le Sud-Africain Akani Sibiné a causé une énorme surprise en battant en finale le favori jamaïcain Johan Blake lors du 100 mètres des Jeux du Commonwealth. C'était à Golden Coast. Le vainqueur a réussi la deuxième meilleure performance de l'année. Et puis en natation, après le 50 mètres et le 200 mètres papillon, le nageur Chad Leclo, le Sud-Africain, a remporté le 100 mètres papillon ce lundi. C'est sa 16e médaille accumulée lors de plusieurs éditions des Jeux du Commonwealth.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Pour la première fois depuis la saison 82-83, Philadelphie a remporté 14 matchs de suite. Après sa victoire hier contre Dallas, 109-97, les Raptors de Toronto ont dominé Orlando, 112-101. Les Celtics se sont inclinés à domicile face à Atlanta, 112-106. À l'ouest, Utah s'est imposé sur le parquet des Lakers, 112-97, et disputera les playoffs pour la deuxième année consécutive. Enfin, le champion en titre Golden State a réagi. Les Warriors, toujours privés de Stephen Curry, blessé au genou, se sont imposés 117 à 100 à Phoenix.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari veut se présenter pour un second mandat lors des élections générales de février 2019. Il devra d'abord obtenir l'investiture de son parti APC, All Progressive Congress. Populaire dans le nord du pays, Muhammadu Buhari aura toutefois besoin du soutien du sud-ouest, dominé par le groupe ethnique Yoruba, pour gagner les élections. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint le professeur de littérature francophone à l'université publique de Lagos, Tunde Fatunde.
Je croyais qu'il allait renoncer à ne plus se présenter pour s'inspirer de l'exemple de Nelson Mandela. Mais il nous a pris autour, il nous a étonné.
A-t-il tenu ses promesses pendant sa première législature? Que va-t-il vendre aux Nigériens aujourd'hui?
Buhari, pour moi, est un exemple de chômage de fond. Avant qu'il arrive à faire son pas, il a promis de transformer de façon profonde la société nigériane. Il a établi trois points principaux. D'abord, l'insécurité grandissante au Nigeria. Et donc, lutter contre la corruption et de quoi essayer de trouver de l'emploi à la jeunesse montante. Il n'a rien fait sur ces trois points-là. Mais on se demande pourquoi on n'a pas accepté la pression de son entourage. Parce que si jamais il arrive au partir de notre Sahel l'année prochaine, il va certainement reproduire l'échec sans propre mandat. On va où avec tout ça? Ajouter à l'insécurité, c'est le problème des conflits opposant masse et fermier qui vont tomber sur le territoire national, surtout dans la région centrale, où les gens se tuent au quotidien, depuis plus de 4 mois. C'est-à-dire que tout simplement amener le pays vers l'anarchie et le chaos. Parce qu'à 15 ans, il n'est pas capable maintenant de diriger le pays comme il faut. Et ça, c'est l'opinion très répandue au niveau du pays.
Il a aussi une santé fragile.
Absolument, absolument. Ajouter à cela, c'est que toutes mes excuses, je n'ai pas envie d'injurier mon président. Sur le plan intellectuel, il n'est pas capable de diriger un pays au 21e siècle. 10 millions d'enfants au Nigeria n'ont pas accès à l'école. Le taux le plus élevé au monde. Plus de 50% de la population adulte sont illettrés. Ils ne parviennent pas à lire et à écrire.
Mais est-ce que M. Buhari aura un adversaire de taille?
Absolument, bien sûr. Non seulement des adversaires de taille, mais toute une génération. La jeunesse nigériane va monter contre lui. Oui, parce qu'il n'a plus rien à offrir au pays.
C'était Tunde Fatunde, joint à Lagos.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'opération Flintok menée par les États-Unis a démarré aujourd'hui à Agadez, dans le nord du Niger. 8 pays sahéliens, dont ceux du G5 Sahel, ainsi que 12 pays occidentaux, participent à ces manœuvres militaires pour renforcer les capacités opérationnelles des armées locales. Idriss Fall a joint Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey et spécialiste des questions de sécurité dans la région.
Ce sont des opérations militaires. Vous savez, les États-Unis, avec le commandement pour l'Afrique, AFRICOM, qui est basé à Stuttgart, en Allemagne, chaque année, ils se retrouvent dans un pays pour faire des exercices militaires, entraîner les soldats, faire aussi construire des casernes qui sont vraiment aux normes internationales et aussi faire des opérations civilo-militaires pour aider les populations locales en médicaments, en infrastructures.
Cette année, il y a combien de pays qui participent?
Bon, on parle d'une dizaine de pays, hein, du G5 Sahel et d'autres partenaires des États-Unis, surtout des partenaires européens, qui sont appuyés en grande partie par des forces spéciales américaines qui sont là pour entraîner les soldats dans la lutte surtout contre le terrorisme qui est d'actualité.
Mais apparemment, ça ne se passe pas qu'à Agadez.
Non, pas du tout. Ça se passe un peu partout. Vous savez que les autres opérations qui se sont déroulées à Difa, il y a des noms de cela, aussi au Tchad, un peu partout. Mais aujourd'hui, l'axe de force principal, c'est la zone d'Agadez. Vous savez que c'est dans cette zone-là qu'il y a la plus grande caserne militaire américaine, notamment avec des drones. C'est la plus grande caserne militaire américaine qui se trouve dans cette partie ouest-africaine.
Et par ailleurs, cette opération n'a rien à voir avec la présence militaire américaine au Niger.
Non, cette opération n'a rien à voir. Vous savez que les soldats américains sont présents depuis un bout de temps au Niger, mais cette opération, c'est pour permettre aux militaires de tous les pays de s'organiser, de se parler, de s'entraîner et de trouver vraiment, d'être vraiment formé par des gens acquéris qui viennent des États-Unis et dans la lutte contre le terrorisme. Mais enfin, au-delà de l'aspect militaire, il y a l'aspect civil où ce sont des infrastructures, des points d'eau, notamment des forages qui sont foncés. Et vous avez aussi des écoles qui sont construites. Vous avez également des dispensaires où des médicaments sont distribués gratuitement aux populations là, vraiment pour qu'il y ait un mélange entre militaires et civils pour se parler, pour régler certains problèmes, surtout en ce moment où le terroriste essaie de prendre le dessus sur les États africains.
C'était Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey et spécialiste des questions de sécurité.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Sur le continent africain, la nouvelle génération d'artistes hip-hop ou les stars de la pop nigériane s'inspire des anciennes sonorités de la musique congolaise. La guitare solo est de retour, associée au rythme dansant, la donne un genre en vogue chez les jeunes. À Kinshasa, la nouvelle génération s'identifie à ce genre nouveau qui rappelle les anciennes gloires de la rumba congolaise. Un reportage de Patrick Abega avec le récit de John Lyndon.
Vous avez certainement déjà écouté ce son. Celui-ci peut-être. Dans le jargon congolais, cela s'appelle du seben, la signature du rythme congolais, une marque qui s'est répandue partout sur le continent africain.
La musique congolaise a été exportée par des commerçants grecs qui en fait avaient ouvert des maisons d'édition ici à Kinshasa. Alors, comme ils avaient plusieurs représentations à travers l'Afrique, déjà vers les années 60, la musique congolaise était vendue partout ailleurs, presque dans toute l'Afrique.
Maintenant, c'est au tour de la nouvelle génération d'importer ces anciennes sonorités, surtout le son de la guitare typique de la rumba congolaise. Pour cette génération, c'est une identité, une marque. Bref, la guitare solo ravive la fierté congolaise.
Dans mon rap, je piquais deux éléments à la musique ndombolo. Il y a la guitare, mais il y a également un atalaku. Moi, j'ai grandi avec la musique de Wenge. Donc, le seben, c'est dans le sang.
Les autres pays, que nous respectons aussi, se permettent de s'inspirer de la musique congolaise. Et quand on parle de musique congolaise, on parle de son identité qui est le seben. On ne peut pas parler de seben sans la guitare solo. Et la guitare solo est la signature même de la musique congolaise.
Les artistes nigériens sont les plus inspirés. Et quand les DJ mixent, ça cartonne et c'est dansant. Entre la rumba congolaise et la pop made in Naija, le pont est déjà jeté. Robert Kabangangoy.
Aujourd'hui, nous le voyons avec la musique nigérienne. Une musique qui aujourd'hui s'impose comme une musique africaine la mieux placée ou la mieux vendue actuellement. Mais quand vous écoutez ça, déjà avec tout ce que vous entendez comme guitare, ça c'est vraiment du congolais.
Certes, la musique venue du Nigeria fait aujourd'hui danser l'Afrique, mais à travers ses accords de guitare, la musique congolaise reste éternelle.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, le nouveau groupe de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Wojtek Zorniak. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En vue de limiter les ressources qui attisent la guerre civile au Soudan du Sud, le département du commerce des États-Unis a imposé des exigences de licence à 15 entités pétrolières sud-soudanaises dont les revenus alimentent la crise en cours. Cela signifie que l'exportation, la réexportation et le transfert par ces entités de tout produit ou article américain sont désormais soumis à une licence d'exportation. Selon la Banque mondiale, le Soudan du Sud est l'un des pays le plus dépendants du pétrole, l'or noir représentant presque la totalité de ses exportations et environ 60% de son PIB. À travers leur action, les États-Unis espèrent accentuer la pression en vue de mettre un terme à 5 ans de guerre civile dans ce pays et la crise humanitaire qui en a résulté. En décembre 2013, en moins de 18 mois après avoir déclaré son indépendance, le Soudan du Sud s'est trouvé confronté à une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce conflit qui s'est transformé en une guerre civile a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. L'économie a été dévastée, avec en plus une prévalence des abus des droits humains, de la famine et de la malnutrition. Les violences ont fait près de 2 millions de déplacés internes et plus de 2 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Les 15 entités visées par les sanctions américaines incluent les ministères sud-soudanais du pétrole et des mines et la compagnie pétrolière d'État Nile Petroleum. Sont également visées Dar Petroleum Operating Company, la compagnie de distribution pétrolière Niak et Fils, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services et Sud Petroleum Operating Company. Ces compagnies sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert. Malheureusement, le gouvernement sud-soudanais et les responsables corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud au lieu d'assurer le bien-être et fournir l'aide alimentaire d'urgence en faveur du peuple sud-soudanais. Le gouvernement du Soudan du Sud peut faire mieux, a dit Helen Howard. En tant que principal fournisseur d'aide au Soudan du Sud, les États-Unis sont fiers de défendre les valeurs humanitaires et de fournir une assistance vitale. Le gouvernement du Soudan du Sud ne doit pas gaspiller cette générosité, mais plutôt prendre des mesures concrètes pour satisfaire les énormes besoins du peuple sud-soudanais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.